La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée à Rabat en partenariat avec l'exposition Memoria, un projet photographique de Roberto Battistini en hommage au goumier marocain, combattant de la liberté.
Ana Nadil Hajali, jondi dans l'armée française 1943.
Il s'appelle Nadil Hajali et il est un soldat dans l'armée française. Il est né en 1920.
Monsieur, la guerre, deuxième guerre mondiale.
Il s'est engagé volontaire. Il savait qu'il va participer à la deuxième guerre mondiale.
Chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille militaire, Ali Nadi est un ancien soldat de l'armée coloniale. Tout comme Amou Moussi, Mohamed Erguig, ils avaient entre 15 et 20 ans lorsqu'ils ont participé à la libération de la Corse. En octobre 43, l'île de Beauté étant le premier territoire français à être repris aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont les derniers goumiers photographiés par Roberto Battistini et vous allez entendre leur voix dans la marche du monde. C'est donc une histoire partagée que nous allons évoquer aujourd'hui avec nos invités. Jama Baïda,
oui.
Directeur des archives du Maroc. Bonjour.
Bonjour.
Et Roberto Battistini, photographe, à l'initiative de ces immenses portraits d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale présentés ici à la Bibliothèque du Royaume du Maroc, après avoir été présenté en France. Bonjour, Roberto Battistini.
Bonjour, Valérie.
Ma première question s'adresse à vous. Quel sens particulier donnez-vous à la présentation de votre projet Memoria ici à Rabat ?
Alors, le projet Memoria à Rabat est l'aboutissement de plusieurs étapes qui se sont d'abord déroulées en Corse en 2013, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du premier département français. Puis ensuite, cette exposition a été proposée à la Maison européenne de la photographie dans le cadre du mois de la photo à Paris. Elle est exposée au musée de l'histoire de l'immigration au palais de la Porte Dorée en novembre 2014. Et consécutivement à l'invitation de Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui est venu à l'exposition et qui a fait un discours au sujet de ce travail, j'ai sollicité légitimement que ces photographies puissent revenir ici sur la terre du Maroc, afin que les goumiers et les Marocains retrouvent cette page de l'histoire.
Qu'est-ce que cela représente pour vous de présenter l'exposition Memoria ici à Rabat, après justement l'avoir montrée en France?
C'est important parce que ces photographies rendent hommage à l'ensemble des combattants qui se sont battus pour libérer la Corse, mais dans lesquels il y a évidemment beaucoup de goumiers, il y a des tirailleurs algériens aussi, mais beaucoup de goumiers que je suis venu photographier ici en novembre 2012. Et donc il me paraissait essentiel d'honorer ces hommes sur leur terre, de la même manière que j'avais souhaité revenir ici au Maroc, dans le Moyen Atlas, pour les photographier.
Jama Baïda, qu'est-ce que le regard d'un artiste photographe peut apporter aux historiens?
Ben, c'est toujours intéressant, le regard d'un artiste. C'est l'histoire qui l'inspire. Et je l'ai dit à Roberto lors du vernissage, il y a une image qui a vraiment attiré mon attention. C'est cette tombe fissurée d'un goumier marocain. Moi, j'ai déchiffré, grâce à l'histoire, j'ai déchiffré que c'est là une mémoire fissurée que l'artiste invite à colmater, à maintenir. Une mémoire, ça se maintient. Et ça se maintient aujourd'hui entre la France et le Maroc, aujourd'hui plus que jamais. C'est approfondir, c'est consolider une amitié existante, mais elle a besoin d'être entretenue.
Le projet Memoria rend visible cette histoire partagée entre le Maroc et la France. C'est donc un des enjeux du projet Memoria de transmettre cette histoire méconnue des combattants marocains. C'est une histoire à transmettre à la jeune génération, représentée ici à Rabat par les lycéens Aïtem, Lina, Reda, Aya, Yassine, Myriam et Safia, dont je vous propose d'entendre tout de suite le message.
Bonjour, je suis Safia et je vais vous raconter l'histoire de mon grand-oncle, l'oncle à ma mère. Ce dernier s'appelait Mohamed Mbarki. Il n'avait que 15 ans quand il est parti en Corse. C'était fils d'un caïd, donc il était obligé d'y participer à cet événement. Surtout qu'il devait donner l'exemple à tout le monde. Et il avait peur de mourir là-bas et de revenir au Maroc et de retrouver sa mère morte. Mais en fin de compte, il est parti, il a survécu aux obstacles et tout le monde est fier de lui. Maintenant, il a 94 ans, il est toujours en vie. Merci.
Merci Safia, petite nièce de Goumier marocain. Son grand-oncle était un fils de Caïd. Alors ça, c'est quand même très intéressant, Jama Beïda, car cette histoire familiale pose la question du recrutement des Goumiers par l'armée française. Comment cela s'est-il passé dans les villages ?
C'est très nuancé. On ne peut pas généraliser. Effectivement, il peut y avoir fils de Caïd, fils de Pacha, comme il peut y avoir fils d'un fellah, un agriculteur. Mais il faudrait peut-être revenir à l'histoire pour contextualiser cet engagement des Marocains, quelle que soit leur appartenance ethnique, régionale, linguistique au Maroc. C'est l'appel du sultan le 3 septembre 1939.
Ce qui signifie que les chefferies, les caïds, les chefs de village se font le relais de cet appel.
Exactement. Il y a un relais par les chefs, mais il y a un relais beaucoup plus fort qui légitime en fait le combat d'un Marocain musulman sous la bannière française et auprès même du colonisateur. Il faut bien se rappeler que le Maroc était sous la colonisation. Mais le sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ben Youssef, futur Mohamed V, était un homme très très perspicace et un grand visionnaire. Et dès 1939, au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il avait senti qu'il fallait que le Maroc, malgré sa situation de colonisé, il devait se mettre aux côtés des démocraties. Il a fait quelque chose d'assez inédit, à savoir que son appel du 3 septembre 1939 a été lu dans les mosquées. Et c'était le relais le plus légitimement, appelant les Marocains à se mettre du côté de la France sans faille.
Alors les Goumiers étaient-ils tous des volontaires ? C'est ce que voudrait comprendre Aya en mémoire de son grand-père.
Je m'appelle Aya, étudiante de première année lycée. Je voudrais parler de mon grand-père qui a été pris par les Français pour combattre contre l'Allemagne. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il est le seul qui est pris malgré lui ou il y en a d'autres ?
Votre réponse, Jama Beïda.
Il devait y en avoir d'autres. C'est pour cela que je dis, il y a des gens qui se sont engagés parce qu'il y a eu l'appel du sultan. Il y a des gens qui se sont engagés parce que, disons, un peu forcé soit par l'autorité française ou simplement le caïd, le chef de la tribu. Ou alors tout simplement, comme ça s'est passé dans d'autres guerres en Indochine ou alors la guerre civile espagnole juste quelques années auparavant, 1936-1939, il y a le besoin aussi.
Jama Beïda, lorsque vous parlez de besoin, nous sommes dans les années 40, vous parlez d'un besoin économique.
Et un besoin économique, bien sûr. D'abord, le Maroc, depuis 1930, traversait une situation, j'allais dire, économique assez précaire. Et puis, l'effort de guerre entrepris par les Marocains, parce qu'en fait, même ceux qui ne se sont pas engagés dans la guerre directement, ont souffert de la guerre, rationnellement, parce que le Maroc, sous la colonisation, devait aussi participer à l'effort de guerre français.
En tout cas, ce qui est très spécifique du Maroc, c'est bien cette idée de l'engagement volontaire qui revient très souvent dans les témoignages. Et c'est cette idée qui est exprimée par le lion de l'Atlas, Ali Nadi.
Moi, je me suis engagé volontaire, donc je n'ai pas regretté. Et de toute façon, nous, on était des soldats de l'armée française et on a travaillé sous le drapeau français.
Vous n'avez jamais eu peur ?
J'ai pas peur, j'ai été blessée 3 fois. La première c'était à Bastia, la deuxième à Marseille et la troisième c'était à Tonkin en Indochine. Elle a même reçu une balle dans le ventre. Elle a reçu la balle dans le ventre et il y est resté et pourtant il a dû marcher 8 jours. 8 jours sans manger.
Roberto Battistini, comment avez-vous mis en scène Nadi Ali, le lion de l'Atlas ? Je rappelle qu'il s'est engagé à l'âge de 19 ans dans le 60e Goum.
Alors j'ai réalisé cette série de portraits grâce à l'aide logistique de l'Office national des anciens combattants de Casablanca. J'ai été accompagné par un chauffeur bilingue qui m'a permis de communiquer plus facilement avec les goumiers. Et quand nous sommes allés rencontrer Ali Nadi dans ses hauts plateaux près de l'Atlas, il y avait une lumière absolument extraordinaire. Évidemment, il était prévenu de mon arrivée, donc j'étais attendu. Et si vous voulez, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé en amont de la photographie avec de la vidéo, en passant beaucoup de temps à interviewer les soldats pour les mettre en confiance. Je ne pouvais pas en fait arriver et réaliser directement une photographie, ce n'était pas possible. Donc en fait, on est passé par les étapes qui étaient celles de raconter leurs souvenirs, de repartir du départ. Et cela prenait pas mal de temps, mais ça les mettait en confiance. Et pendant que j'installais donc cette caméra sur pied, que je les questionnais, eh bien devant moi, il y avait une scène absolument formidable avec cette table dressée, le thé était préparé, les gâteaux étaient là, les femmes étaient habillées avec des habits de cérémonie et Ali Nadi, évidemment, portait toutes ses médailles. Donc en fait, ce sont des portraits scénarisés qui ne font que rejoindre l'idée de départ qui est de mettre en valeur ces soldats dans leur univers.
Décrivez-nous la photographie que vous avez finalement réalisée.
Alors, la photographie que j'ai réalisée, c'est celle d'Ali Nadi posant très fièrement devant la caméra en premier plan. Et je tenais absolument, parce qu'il y avait l'une de ces jeunes filles qui était là et qui venait régulièrement servir le thé à nous tous. Et je l'ai interpellée, je lui ai demandé si elle acceptait de poser en deuxième plan dans la photographie. Et ça me paraissait très important, et d'ailleurs j'ai répété cette idée dans différents portraits, de faire poser ces goumiers avec soit leur femme, soit leur fille, car cette dimension de la famille, ces femmes présentes à leur côté, signifie quelque chose de très important pour moi.
Ali Nadi a répondu présent à l'appel du sultan Mohamed V et comme nous l'explique l'historien français Pierre Vermeren, Mohamed V s'est engagé aux côtés des alliés dès 1940.
Dès la période qui court de l'été 1940 jusqu'au débarquement américain de novembre 1942, Mohamed V s'était prêté à l'opération menée en secret par les Français qui consistait à remonter cette armée française secrète de 100 000 hommes qui sont eux non seulement maquillés mais qui possèdent des armements lourds qui sont cachés dans l'Atlas marocain. Donc dès cette période, cette première partie de la guerre, il y avait eu donc une action, on pourrait dire, de coopération du sultan. Aucune fuite n'est jamais sortie du Maroc et d'Algérie et cette armée de la revanche, finalement, elle a pu se constituer dans le secret de l'Atlas avec la coopération donc du roi Mohamed V. Donc Mohamed V était au courant, tenu dans le secret par les services de renseignement américains du débarquement anglo-américain qui est intervenu au Maroc en novembre 1942. Et très vite, il était clairement en situation et en position d'apparaître comme le chef d'État qu'il a toujours été, hein, malgré le protectorat, il restait chef de l'État marocain, et d'apparaître comme un interlocuteur des alliés. Et évidemment, la grande conférence qui va le faire apparaître sur le devant de la scène publique, c'est la conférence d'Anfa, notamment avec la présence du président américain Franklin Delano Roosevelt, avec qui il aura une entrevue, et dans l'histoire du nationalisme marocain, on rattache cet événement fondateur comme une marche importante, puisque Roosevelt aurait promis l'indépendance au Maroc.
Le sultan Mohamed V a choisi son camp très tôt, ce qui pose question quant à ses intentions. C'est la question de Myriam.
Je suis Myriam, je suis une étudiante en première année de lycée. Je voudrais savoir quelle est la stratégie du roi Mohamed V quand il décide de s'allier avec les Français.
Alors, une réponse d'un grand et éminent historien. Myriam, tu as de la chance. Bon, l'analyse de Jama Baïda.
En fait, la stratégie du sultan Mohamed Ben Youssef, on ne l'appelait pas encore Mohamed V. Mohamed V, c'est a posteriori, c'est venu après. La stratégie du sultan, c'est de rester fidèle d'abord à son engagement du 3 septembre 1939, seconder la France dans l'épreuve. Sa stratégie aussi, c'est de ne pas abandonner son combat nationaliste devant mener à l'indépendance. Son combat aussi, c'est d'imposer qu'il est un chef d'État qui n'est pas à la merci chaque fois de la résidence. La preuve, c'est que lorsque le général Nogues, au débarquement américain, a demandé qu'on transfère la capitale du Maroc de Rabat à Fès, il a refusé. La preuve, c'est que lorsqu'on lui a imposé les lois antisémites, il a dit non, les juifs marocains sont mes compatriotes, ils sont mes, pour utiliser le jargon de l'époque, ils sont mes sujets autant que les musulmans. Donc, fidélité à la France dans son combat contre les pays de l'Axe, les dictatures fascistes et nazies, mais en même temps, il poursuit son combat pour son pays, à savoir l'indépendance.
Un combat porté, bien sûr, par ces goumiers marocains pour la libération de la France, un combat qui vient d'être célébré à Paris à travers l'inauguration d'une stèle en la présence de l'ambassadeur du Maroc, monsieur Chakib Ben Moussa.
Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir de mémoire s'impose pour nos générations, comme il s'impose pour donner des repères et du sens aux générations futures. Ce monument érigé à la place Denis Cochin, près des Invalides, de l'école militaire et de la statue du maréchal Lyautey, rappelle l'engagement de ces hommes venus participer à la libération de la France et qui sont morts pour la France. Il constitue tout un symbole des liens qui ont uni dans l'histoire nos deux pays, le Maroc et la France.
L'appel de Mohamed V, cité par la représentante de la mairie de Paris.
À partir de ce jour, et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve. Ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice. Nous étions liés à elle dans les temps de tranquillité et d'opulence. Et il est juste que nous soyons à ses côtés dans l'épreuve qu'elle traverse et d'où elle sortira. Nous en sommes convaincus, glorieuse et grande.
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Mesdames et messieurs, soyons fiers de ce que nous commémorons aujourd'hui. Soyons fiers de cette histoire écrite à quatre mains de part et d'autre de la Méditerranée. Soyons fiers que nos deux nations, la France et le Maroc, aient su se rassembler autour de valeurs nobles, la liberté et la fraternité élevées au-dessus de tout le reste.
Je crois qu'il est important de rappeler cet hommage aux Goumiers, d'abord pour ce qu'ils ont fait. Ils ont combattu pour la libération de la France, pour la défense de nos valeurs. Ils l'ont fait à l'époque, ils ont fait des sacrifices. Certains d'entre eux sont morts sur notre sol, un sol qu'ils n'avaient jamais foulé auparavant, et nous leur devons en tout cas une partie de notre liberté. Notre jeunesse a besoin de connaître cette histoire, et aujourd'hui, alors que les témoins vivants disparaissent, dans une période où il est de bon ton pour certains de diviser, de rejeter l'autre, il est bon ton de rappeler qu'eux sont venus d'Afrique combattre pour notre liberté, et qu'aujourd'hui nous leur devons une part de notre liberté.
Représentant des derniers goumiers marocains, Ali Nadi nous a confié son émotion.
Je suis hyper content, très content de voir tout ce que j'ai fait, tout mon travail couronné par un hommage, un vrai hommage. De rester en vie surtout, de rester vivant jusqu'à ce qu'il voit toutes ces cérémonies, toutes ces manifestations en hommage à ce qu'il a fait, à son travail.
Les voix de Ali Nadi, Amou Moussik et Mohamed Erguéguéguégué sont dans la Marche du Monde enregistrée à Rabat pour l'exposition Memoria de Roberto Battistini. Le photographe a réalisé les portraits des derniers goumiers combattants de la liberté. C'est à suivre juste après les infos sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
La smithy, smithy Moussik Hammou, la scène de Goumi, 1918. deuxième GTM, le premier tabar marocain, chef de bataillon, commandeur Merik.
Il s'appelle Moussi Khemmo, il est né en 1918, il est du 60e Gomp, 2e GTM, premier tabor marocain, son chef était commandant Merik, et le chef du régiment c'était le colonel Boyer de la Tour.
Douar Tamerzoukht.
Il est né au Douar Tamerzoukht.
La Kabila Ait Abdallah.
La tribu d'Ait Abdallah.
Le Biro Azilal.
La province d'Azilal. Il s'est engagé pour travailler dans l'armée française. C'est un service, il a dit, c'est un service.
Et vous avez eu beaucoup de médailles.
Elle a 7 médailles.
Combien ?
7. 7 médailles.
Donc la Légion d'honneur.
La médaille militaire, la croix du combattant, la croix de guerre TOE. Et...
la croix de guerre française, la croix de guerre Indochine.
La médaille d'outre-mer et la médaille coloniale.
L'Indel, voilà.
Et la plus haute distinction, c'est officier de la Légion d'honneur. C'est la Légion d'honneur.
Vous gardez vos médailles précieusement avec vous.
Il les garde précieusement chez lui et à chaque fois qu'il y a une manifestation, il les arbore. Et c'est quand il y a une manifestation avec la France, pas avec les Marocains.
Ils s'appellent Hamou Moussik, Ali Nadi et Mohamed Erguig et ils ont traversé la Méditerranée pour participer au dur combat pour la libération de la Corse en octobre 1943. Ils sont les derniers goumiers immortalisés par l'objectif du photographe Roberto Battistini et leurs portraits sont présentés ici à Rabat, à la bibliothèque du Maroc. C'est une histoire intime qui ne laisse pas indifférents les jeunes lycéens marocains qui m'ont aidé à préparer cette émission.
Bonjour, je m'appelle Reda et j'ai 14 ans. J'ai une question que je voudrais poser à Roberto Battistini. Alors, monsieur Roberto, vous êtes corse. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé précisément aux goumiers marocains ? Pourquoi les avoir photographiés ?
Excellente question, Reda. Alors, réponse.
Alors, d'abord, je me suis intéressé à la libération de ce morceau de territoire qui est la Corse, où je suis né. Et c'est d'abord une histoire qui est portée par un grand-oncle paternel qui était résistant et qui est mort pendant les durs combats de la libération de la Corse. Donc c'est d'abord sur cette colonne vertébrale qui est la libération de ce territoire que je me suis intéressé aux combattants. Et dans ces combattants, j'ai évidemment trouvé des anciens résistants, corses, et tout de suite après, j'ai trouvé les fameux goumiers marocains, ainsi que des tirailleurs algériens qui ont traversé la Méditerranée pour venir se battre en Corse. Le principe de ce travail était de mettre en écho le territoire et les hommes. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait les théâtres de guerre, les lieux où on avait débarqué des armes, torturé des gens, tué. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de retraverser ce territoire, qui est l'île où je suis né, en conscience de ce qu'avaient été ces combats. Et bien évidemment, je me suis dit, ce qui serait formidable, ce serait de retrouver ces soldats qui ont été les acteurs de ces théâtres de guerre.
Vous êtes un passeur de mémoire, vous avez érigé un pont au fond entre le territoire corse et le territoire marocain. C'est une géographie de la mémoire incarnée au fond par ces anciens soldats que vous avez recherchés.
Absolument. Il y avait cette idée du territoire, d'une île, d'un morceau de terre française. Et puis l'universalité du propos qui était de dire... les soldats qui se sont battus pour la liberté, c'était des soldats français, c'était des soldats marocains, c'était des soldats algériens qui sont morts aussi. Il y a aussi dans mon travail des photos faites dans des cimetières, il y a des tombes de goumiers. Et l'idée, c'était de dire, sur ce territoire, il y a la trace encore visible de cette histoire. Et c'est une histoire qui est partagée et qu'il ne faut pas oublier, parce qu'évidemment, elle nous renvoie inévitablement au questionnement hein, de la traversée des territoires, de ce que l'on constate aujourd'hui dans nos sociétés, sur la migration, sur toutes ces questions multiculturelles. Et indirectement, en interrogeant la mémoire et l'histoire, finalement, j'interpelle les jeunes générations sur ces questions-là.
Et elle vous interpelle. Nous retrouvons Hamou Moussik, 12 ans et 11 mois de service dans l'armée française. Il nous dit que les résistants corses et les goumiers marocains se sont rencontrés car ils avaient un ennemi commun.
La deuxième Allemagne.
Notre ennemi, c'est l'Allemand. Ce sont les Allemands.
Les Allemands. Voilà qu'il y a كورسيكا عاون الناس المدنيين المدنيين كاين الناس كل كوبانيا
il y avait des gens corses qui les ont aidés à l'époque chaque compagnie avait un guide corse
بعد ملي كنا في كورسيكا حنا مرجحين
ils sont restés en Corse après la libération ils y sont restés des jours c'était bien parce qu'ils se rappellent qu'il y avait des amandiers Et puis, il y avait les gens qui vont à la prière le dimanche. Ils se rappellent des églises. Il a dit, même nous, si on veut rentrer, on y rentre. Lui aussi, il rentrait dans cette église. Il a dit qu'il n'enlevait pas ses chaussures. Il y rentre, il fait comme eux.
Le sourire, le rire de Hamou Moussik dans La Marche du Monde, sorti pour la première fois des montagnes de l'Atlas, il a rencontré au fond un autre peuple de montagnards, Roberto Battistini.
Absolument. Dans l'idée de ce travail, de mettre en écho le territoire et les hommes, de revenir ici au Maroc dans le Moyen Atlas pour les photographier, il y avait aussi cette idée de mettre en parallèle, je dirais, la géographie de l'île avec la géographie de l'Atlas. Et l'on comprend à quel point ces guerriers étaient très à l'aise dans les sentiers corses, très à l'aise dans le maquis. Ils étaient eux-mêmes issus souvent de familles agro-pastorales. Donc, marcher dans la nuit, marcher avec le soleil ne leur posait aucun problème.
Et ce tout jeune homme qui était Hamou Moussik a été guidé par un autre jeune homme, presque un enfant, l'enfant aux semelles de vent. Ça, c'est dans votre livre.
Absolument. Ernest Bonagosch, qui était sarde, dont la famille avait émigré de Sardaigne vers la Corse à la suite du mouvement de l'Italie fasciste. Et donc, il était un jeune berger d'une quinzaine d'années dans le désert des Agriades, du côté de Caste. Et lorsque les goumiers sont arrivés avec leur lieutenant dans la préparation de la libération du col de Téguim, où il y a eu les combats les plus meurtriers, les plus difficiles, eh bien, ils ont cherché en fait un guide pour les conduire dans la nuit du désert des Agriates jusqu'au col de Téguim. Et ce sont de nombreux kilomètres et c'est Ernest Bonagosch qui les a guidés.
Est-ce que c'est aussi ça, la guerre, Jama Baïda, des rencontres fortes entre des hommes qui, a priori, ne sont pas faits pour s'apprécier et encore moins pour s'aimer? Je pense aux goumiers et à leurs officiers français. On est quand même dans le cadre de la colonisation. C'est quoi cette relation entre goumiers et officiers français?
D'abord, il faudrait peut-être rappeler pour vos auditeurs que le goumier n'est pas né de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, les Marocains étaient très présents pendant la Grande Guerre. Et c'était leur première implication aux côtés de la France en dehors du territoire marocain. Tout ceci se rappelle, ce background historique permet de comprendre que l'engagement du goumier pendant la Deuxième Guerre mondiale en Corse, en Provence, en Tunisie, à Monte Cassino, en Allemagne, n'est pas parachuté, j'allais dire. Il y a une lignée historique, il y a une légitimation historique qui s'ajoute à la légitimation de l'appel du sultan du 3 septembre
1939. Alors Jama Baadi, ici, l'engagement des goumiers marocains dans l'armée française ne date pas effectivement de la Seconde Guerre mondiale. Et si l'on veut regarder la relation entre les hommes, je vous propose de revenir sur la figure de Pierre Boyer de la Tour, oui, présenté par Pierre Vermeren, notre spécialiste français du Maroc.
Donc le lieutenant Boyer de la Tour, qui est resté dans l'histoire parce qu'il a été le dernier résident général du Maroc, hein, une quinzaine d'années après, c'est à la fois un officier classique, parce que les officiers français qui dirigent les troupes coloniales sont des officiers qui généralement parlent l'arabe ou le berbère, qui ont la vie de leurs hommes, puisqu'ils habitent sur le terrain, généralement sous la tente. Donc ce sont des officiers qui, eux, vivent sur le terrain et qui ont une très bonne connaissance du pays et de leurs hommes. Par ailleurs, le lieutenant Boyer de la Tour, lui, est un des premiers à franchir la barrière de verre, hein, qui existe dans l'Empire, c'est-à-dire qu'il est un des premiers à se marier à une fille du pays. Et donc, ça va lui donner une place particulière, non seulement vis-à-vis de ses hommes, qu'il l'appelle Simoha, hein, c'est-à-dire Moha, c'est une appellation qui est la version berbère de Mahomet, hein, Mohamed et Moha, Donc c'est une réduction aujourd'hui un peu oubliée, mais qu'on retrouve encore en Kabylie, par exemple. Et ça lui donne aussi une place particulière vis-à-vis du Marzen, vis-à-vis des autorités sultaniennes, qui bien sûr repèrent très bien que cet aristocrate français s'est marié avec une femme marocaine, et c'est quelque chose qui sera très apprécié évidemment aussi par le sultan, pas seulement par les hommes de troupe.
Les hommes de troupe, et notamment Ali Nadi, apprécient. Le Lion de l'Atlas se souvient très bien de son lieutenant-colonel, Pierre Boyer de la Tour.
Voyez de la Tour, chef dit, il régiment.
Mouhaoulatour, c'est un surnom du lieutenant-colonel Boyer de la Tour. Il était tellement proche de ses goumiers, il parlait avec eux en berbère, à tel point qu'on lui a donné le surnom de Mouha. Donc ça montre l'estime qu'avaient les goumiers envers cette personne. Il était difficile et courageux. On lui donne juste les zones qui sont un peu dangereuses dans la guerre, il a dit.
On lui donne les meilleurs soldats comme vous.
Mais l'homme.
Bien sûr.
Il
a dit que tous les Marocains, tous les soldats marocains étaient courageux et ils étaient bons, quoi.
Mahoulatour, oui, هو اللي دار لي هذوك كلشي الشواهد ديالي كلشي راه تما هو راه دار لا غير ديال المغرب ديال اطلس
محاولاتو سيتي ان انسيان كي تي موين اطلس il parlait parfaitement l'arabe et le berbère il a dit qu'il a bien travaillé avec nous et nous aussi on a travaillé avec lui on a bien travaillé avec lui
et d'ailleurs Boyer de la Tour a rapidement récompensé la bravoure de Ali Nadi par une citation bon goumier écrit-il le 1er octobre 1943 à l'attaque du col de Teguim a fait preuve de sang-froid et de courage ajustant des ennemis qui contre-attaquaient la position
مشينا من المغرب من أزيلال.
Ils sont partis d'Azilal à pied.
À pied. مشينا من وادزمل لسميتو بين الرباط والقنيطرة.
Ils sont partis jusqu'une zone entre Casablanca et Rabat. C'est là où ils ont fait leur instruction sur les mines et sur les chars.
من تما مشينا من سميتو الشبدو.
Ils ont fait des manœuvres vers les frontières du Maroc entre le Maroc et l'Algérie. Ils ont passé 15 jours là-bas et après ils ont débarqué d'Algérie en Corse.
Votre première impression de la Corse, est-ce que c'était pour vous un territoire inconnu ?
C'était facile pour lui parce qu'il vient de l'Atlas, il est originaire de l'Atlas, là où il y a les montagnes. Donc les montagnes de la Corse lui sont familiers, quoi. Et il a dit que c'est nous qui avons libéré la Corse.
Vous avez participé au combat décisif contre les Allemands au col de Teguim, les 1er et 2 octobre 1943, et il y avait du brouillard ce jour-là.
Mais l'homme ?
Bien sûr.
Bien sûr, quel chauffeur.
Bien sûr. C'est vrai qu'il y avait le brouillard à l'époque sur le col de Teguim. Et ben nous, les Marocains, on dit juste Allahu Akbar, Dieu est grand, et on avance.
Et vous sortez de la tranchée pour attaquer les Allemands. Est-ce que vous les avez vus de vos yeux ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr qu'ils les ont vus.
Toujours en tête. Choisi devant de compagnie.
Il était caporal, donc il était toujours en tête de la compagnie.
Durant
tout son séjour dans la Seconde Guerre mondiale, il a capturé 72 prisonniers allemands. Il a dit en Corse, non, je n'ai rien capturé. Mais c'est nous qui avons libéré la Corse, il insiste.
La voix de Ali Nadi dans La Marche du Monde, Ali Nadi dont le portrait est à découvrir dans l'exposition Memoria. C'est votre projet photographique Roberto Battistini où l'on découvre les derniers goumiers vivants, debout, en couleur, des hommes qui sont quasiment toujours photographiés frontalement. Je pense par exemple à la photographie de couverture du catalogue de l'exposition que l'on peut découvrir tout de suite sur la page RFI.fr de La Marche du Monde. Pourquoi ce choix de la frontalité ?
La frontalité, parce que dans le regard frontal d'un photographe, il n'y a pas d'esquive. Et si vous voulez, l'idée, c'était de, de les mettre en situation en faisant écho à la manière dont vraisemblablement ils avaient combattu, c'est-à-dire d'une manière très frontale avec l'ennemi et sans esquive, hein, puisque Ali Nadi nous dit, mais à Moumoussik aussi, c'est un combat qui parfois s'est fait à l'arme blanche, au corps à corps. Et donc, il y avait l'idée, si vous voulez, aussi dans la frontalité, d'avoir ces regards droits dans la caméra qui emportent, le respect.
Et le choix de la couleur également, une photo esthétique, vous n'êtes pas dans un regard noir et blanc, documentaire, vous ne voulez pas les enfermer comme une archive.
Absolument, alors ça c'est un parti pris plastique que j'ai décidé dès le début. Je voulais que ce soit un travail très contemporain et je voulais aussi qu'on n'imagine pas une seule seconde, du fait de leur âge, que ce puisse être des photographies anciennes, récupérées d'un autre temps. Le propos était de dire... Je vous raconte cette histoire qui est encore très contemporaine, puisqu'aujourd'hui, ces soldats sont debout devant vous et vous regardent droit dans les yeux.
Risquer sa vie, c'est également ce qu'a fait Mohamed Erguig. Écoutez sa voix, c'est le dernier témoignage que nous vous proposons aujourd'hui en hommage au Goumier.
Mohamed Ben Goujoumaa Erguig. Sidi Qassem.
Je suis né à Sidi Qassem. J'avais 18 ans. Quand je me suis engagé dans l'armée. C'est le gouvernement qui nous a appelés. Les chefs et les responsables locaux du village. Ils sont appelés à rejoindre l'armée car le pays a besoin d'eux. Cet appel venait de feu le roi Mohamed
V.
J'appartenais pas au Goumier, j'appartenais au régiment de tirailleurs marocains. Les Goumiers étaient en djellab. Nous, nous avions des tenues, des uniformes de l'armée américaine. Nous avons escaladé des montagnes en Corse, en Italie. Nous avons escaladé pendant 12 heures des montagnes très abruptes et le passage était très étroit de telle sorte que les mulets et les ânes sur lesquels on chargeait les munitions et les armes, il y en a qui ont glissé et tombé de haut jusqu'en bas. C'était très dur à traverser. Sur le champ, nous n'avons pensé qu'à la mort. Tout est à côté de nous, explosions et des balles et des grenades et tout. Il n'y avait que la mort qui était devant nous. On ne se rappelait pas du pays ni du village. Nous ne pensions que comment survivre et comment éviter la mort. Et c'est ça uniquement ce qui nous préoccupait.
La mort en face, c'est le destin des soldats. Ils sont toujours très jeunes, qu'ils soient tirailleurs ou goumiers marocains. Combien étaient-ils et combien sont morts pendant cette Seconde Guerre mondiale, Jama Baïda?
Je crois qu'ils étaient, les engagés étaient aux alentours de 22 000. Il y en a 2 000 qui ne sont pas revenus. Je voudrais juste rendre hommage au courage de ces hommes et dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut les appeler les oubliés de la République française. On s'en rappelle maintenant, un peu tardivement maintenant aussi, avec le film indigène de Bouchareb en 2006, je crois, avec cette exposition, avec quelques stèles. Mais il reste beaucoup à faire, même s'il n'y en a plus beaucoup de vivants.
Une autre question pour vous, de nos lycéens marocains.
Je suis Yacine et je voudrais savoir pourquoi les combattants marocains ont une réputation d'être combattants de choc.
Ils sont des combattants de choc parce que ce sont des gens très très courageux qui n'ont pas eu la vie facile déjà dans leur village. Et quand on les a choisis, quand on les a recrutés, il y a eu cette approche, cette fraternité d'armes évoquée tout à l'heure quand on a parlé de Mouhaoula Tour. Donc, il y avait cette confiance entre officiers et goumiers qui fait que ces gens-là avaient une confiance totale dans leur officier, comme si cet officier était le porte-parole du sultan, parce qu'il y avait...
Et donc de Dieu.
Et donc de Dieu. Le sultan, c'est le représentant de Dieu sur terre, au moins dans la vision de ces gens-là. Donc, il allait aveuglément, et n'oublions pas leur devise. Leur devise, c'est « Zidul Guddam », ça veut dire « en avant ». En fait, et le témoignage qu'on vient d'écouter, je ne voyais que la mort. Je ne pensais même plus au pays. Donc, soit vaincre, soit mourir.
On continue les questions des jeunes Marocains avec Haïtem, suivi de Lina.
Bien, bonjour, je m'appelle Haïtem Twil et ma question est, tout le monde sait que les anciens combattants ont sacrifié leur vie, ont abandonné leurs femmes et enfants. Terre et bétail pour soutenir la France. Mais pourquoi ils n'ont pas eu de récompense de la part de la France ?
Bonjour, je m'appelle Lina et ma question est la suivante. Le Maroc a bien évidemment aidé la France, mais en faisant cela, s'est-il aidé lui-même ?
Maître.
Bon, s'est-il aidé lui-même ? Politiquement, je pourrais dire que le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef a su tirer profit de cet engagement du Maroc auprès de la France et auprès des démocraties. Et petit à petit, son discours est le suivant. Nous vous avons épaulé, nous nous sommes sacrifiés pour vous. Maintenant, c'est le clan de la liberté, c'est le camp de la liberté qui a gagné et nous avons droit à notre liberté. Et sur cela, il a réussi petit à petit à arracher des choses, a dépassé lui-même cette hésitation qui faisait qu'il était plutôt réformiste qu'indépendantiste. N'oublions pas que le manifeste de l'indépendance du Maroc a été présenté le 11 janvier 1944, c'est-à-dire en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc, le contexte de la guerre a fait aussi qu'il y a eu une évolution interne en douce, effectivement, malgré quelques répressions ici à Rabat, Salé, Éphèse, mais le mouvement national, dans le contexte de la Grande Guerre, et le fait que des goumiers marocains aient sacrifié leur vie pour la France et pour les démocraties en général, fait que c'est un atout qui est joué un peu plus tard, pour que le Maroc ait son indépendance en 1956.
Donc ça explique en partie 56.
Ça explique en partie 56.
Avant de vous demander ce que cette expérience photographique a changé dans votre vie, Roberto Battistini, je vous propose d'entendre une dernière fois Mohamed Erguig.
Nous avons fêté notre victoire ensemble, entre nous, y compris les officiers qui nous ont apporté de quoi boire, de quoi manger. Il y avait des civils qui ont participé avec nous, des civils qui ont souffert de l'occupation allemande et qui venaient parce qu'ils avaient faim, nous demander de quoi manger, de quoi boire, et nous les avons accueillis et donné de quoi manger. Nous avons chanté chacun son chant populaire, comme nous étions de plusieurs régions. Il y avait des gens qui s'éclataient et qui chantaient. Tu te souviens de la chanson d'Abadji l'Habiba, d'Abadji, c'est-à-dire la bien-aimée va venir, elle viendra. Une chanson bien connue dans leur région qu'ils avaient chantée à l'époque.
Au son de ces polyphonies corse, je vais vous demander, Roberto Battistini, si Memoria était une quête personnelle, qu'est-ce que votre projet est devenu aujourd'hui ? Comment vous a-t-il changé ?
Alors, dans la vie d'un photographe ou d'un artiste d'une manière générale, il y a des rencontres avec des histoires qui marquent définitivement votre vie. Et en ce qui me concerne, cela faisait très longtemps que je souhaitais réaliser un travail de fond sur la Corse. dont on peut dire que l'image est très galvaudée, hein, l'image médiatique et également l'image photographique, hein, c'est la Corse des cartes postales. Et moi, je m'intéressais, si vous voulez, à ce territoire depuis très longtemps, sans véritablement trouver quelle allait être la porte d'entrée. C'est finalement cette histoire familiale qui m'a porté sur les chemins des combattants de la liberté. C'est une histoire transmise par mon père, qui est un ancien combattant, qui est un marin. Donc quelque part, en retournant sur les chemins des combattants de la liberté, malgré moi, je retournais sur ma propre histoire.
Merci Roberto Battistini, et merci Jama Baïda. Rappelons que l'exposition Memoria est présentée ici à Rabat, à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, jusqu'au 30 octobre, ne la ratez pas. Cette émission n'aurait pu être réalisée sans la participation exceptionnelle des anciens goumiers, Ali Nadi, Hamou Moussik et Mohamed Erguig, que j'embrasse affectueusement. Je tiens aussi à souligner le talent de nos traducteurs, Nawal Boulkir et Akil Al-Shekli. Merci encore à nos lycéens, ainsi qu'à Mohamed Lotfi Rini, secrétaire général du ministère de la Culture du Maroc, et à Rachid Mstefa, le grand organisateur de notre venue dans la capitale marocaine. Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.fr. Le dernier goumier marocain, c'était une Marche du Monde réalisée par Guillaume Ploquin. Réagissez sur notre Facebook, podcastez cette émission, c'est la vôtre.